Bonsoir, avec les confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine et pour ce soir de thèmes ont été retenus pour vous, à savoir la conférence épiscopale nationale du Congo a lancé hier jeudi 8 décembre à Kinshasa des nouvelles négociations entre Congolais pour permettre à la République démocratique du Congo de sortir de l'impasse politique à moins de 15 jours de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Ensuite, nous nous rendrons à Tshikapa dans la province du Kasaï pour parler des affrontements entre les forces de l'ordre et les membres d'une milice locale. Bilan de ces affrontements, plus de 30 personnes tuées, dont des militaires et des civils. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Rombo Saba, journaliste au journal L'Observateur, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Rombo.
Bonsoir Kelly Nkoute.
Thierry Bongo, journaliste Africa TV, une télévision émettant à Kinshasa. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Kelly.
Et Chamboui Batoubenga, journaliste et directeur de programme à la radio-télévision Atlantique, une télévision émettant à Matadi dans la province du Congo central. Chamboui, bonsoir.
Bonsoir, merci Kelly.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Alain Hong.
Bonsoir. Vérité politique directe, majorité opposition, 30 participants s'affrontent aujourd'hui. C'est ce qu'annonce à la une le journal La Prospérité, avec la garantie morale et politique du président Kabila et d'Étienne Tshisekedi. Le soutien de tous, explique la consoeur. La SENCO a l'assurance que les résolutions issues des négociations politiques directes du centre interdiocésain seront rapidement mises en œuvre. C'est sur quoi se braque le quotidien Le Phare, qui met en vedette rassemblement majorité, c'est parti. Pour Monseigneur Outembi, l'heure est grave. Le peuple nous regarde. Et dans la même veine, le quotidien Le Potentiel signe en manchette. Négociation directe, MP rassemblement, un départ qui rassure. C'est que corrobore le tabloïd Forum des As, rapportant que Monseigneur Outembi exhorte les politiques à prêcher le calme, pour que les Congolais ne revivent plus jamais les tristes événements des 19 et 20 septembre 2016 dernier. Le Potentiel rapporte également que Moïse Katumbi annonce son retour pour être aux côtés du peuple, se disant pas effrayé par la possibilité d'être arrêté. Aux antipodes, www.actualité.cd renseigne qu'au dialogue inclusif, la question du 19 décembre divise déjà les participants. Aussi, la prospérité nous signale-t-elle qu'ignorée par le président de l'UNC, l'opposition républicaine récuse Caméré pour n'avoir pas mis ses délégués sur la liste transmise à la SENCO de l'opposition ayant pris part au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Concernant la situation sécuritaire à Tshikapa, le site d'information Actualité.cd a constaté dans sa publication de lundi que le calme était revenu à Tshikapa après des combats entre les forces de l'ordre et des hommes présentés comme fidèles au défunt chef coutumier Kamuina Nsapu. Le bilan officiel faisait état d'une trentaine de miliciens tués et une dizaine capturés. D'après la société civile locale, explique le journal en ligne, le bilan du côté des civils est plus lourd, mais aucune estimation n'était disponible au soir du dimanche 4 décembre dernier. Radio-Capi.net rapporte que la MONUSCO condamne les violences qui ont secoué la ville de Tshikapa les 2 et 3 décembre dernier. Dans un communiqué publié mardi 6 décembre, la mission onusienne rappelle que cette ville du centre de la RDC a été le théâtre d'affrontements entre des miliciens supposés et les forces de l'ordre, faisant des morts, des blessés et des dégâts matériels. Terminons par Radio-Capi.net qui titre « Congo central, la motion de défiance contre le gouverneur Mbadou rejetée. La motion de défiance introduite le vendredi dernier contre le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou, a été rejetée mercredi 7 décembre par les députés provinciaux. À l'issue d'un vote organisé à l'Assemblée provinciale, 15 élus sur les 26 présents à la plénière ont voté pour le rejet de cette motion qui réclamait le départ du gouverneur accusé de mauvaise gestion. Les élus qui ont voté contre la motion ont notamment fait prévaloir des irrégularités dans la procédure.
Merci Alain pour ce journal. Des journaux, autres sujets qui ont fait aussi l'actualité pendant la semaine. Il y a par exemple, comme Alain l'a dit, dans la revue de presse, cette motion de défiance contre le gouverneur du Congo central qui a été rejetée par la plénière de l'Assemblée provinciale mercredi dernier. Parmi les raisons de ce rejet, il a été notamment évoqué des vices, des formes et des procédures. Le bureau estime que les signataires de la motion devaient plutôt procéder par une motion de censure que par une motion de défiance au Rombo Tabar.
Oui, ça me surprend un tout petit peu qu'à ce niveau-là, des élus du peuple qui doivent avoir maîtrisé les règlements d'ordre intérieur puissent ne pas se conformer justement à la ligne de conduite de leur chambre. C'est quand même regrettable. Mais au-delà de cet aspect de formalité, de forme, je pense que il y a quelque chose de suspect dans cette province du Congo central, parce que depuis un certain temps, ce sont soit des députés nationaux de cette province qui descendent à Matadi, et bientôt, nous avons suivi tout à l'heure là, ce sont les députés provinciaux. Alors, mais Kéline, écoute-moi, je ne comprends pas, parce que je ne suis pas encore dans la politique active, mais qu'est-ce que les hommes qui sont au pouvoir pensent du pouvoir? Parce que si réellement il y a des preuves palpables, évident sur la mauvaise gestion de la province, je pense que ça ne pouvait pas susciter des polémiques entre les élus qui ont eu le mandat de la population pour préserver leurs intérêts. Donc, si c'est fait qu'il y a des turbulences à ce niveau-là, c'est là que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une sorte de règlement des comptes vis-à-vis de l'individu Mbadou, ou c'est vraiment sa gestion qui pose problème? Donc, je suis un peu désorienté jusque-là quand je sens qu'il y a une partie de celui du peuple qui prennent cause et fait pour les gouverneurs. On a dit même qu'après le rejet de la motion, il y a eu un carnaval dans la ville de Matadi. Alors, moi, je suis un peu dérouté dans
ça. Merci, Rombo Tsaba. Thierry Bongo, comment vous analysez cette décision du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central?
Bon, je peux dire de prime abord que c'est une prise de position par rapport à la forme, mais ça n'élude pas le fond de la question. Qu'est-ce qui se passe en termes de gestion de la province? Le gouverneur Badou a cette particularité-là d'être un gouverneur élu ni de l'opposition, encore moins de la majorité, parce que ceux qui ont initié dans cette motion de défiance sont de la majorité, du PPRD précisément, et si cette stature, ou plutôt cette position qu'il a fait de lui la cible de tous les deux camps, c'est surtout parce que M. Badou ne se sentant pas directement demandeur, ou plutôt rendre compte à ces deux camps politiques, il gère de manière un petit peu plus opaque. L'opacité, vue dans le sens des politiciens, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'opération retour, il n'y a pas d'intérêt particulier vis-à-vis de ce qu'il initie dans la province. Et vous savez très bien comment nos politiques se comportent. Ils estiment plus que l'intérêt de leur poche compte plus que celle de la province. C'est ce qui se fait qu'aujourd'hui, le gouverneur Badou s'attire la foudre de ces personnes-là qui veulent à tout prix être partie prenante, si pas intéressée par le mode de gestion qu'il est en train d'instaurer dans sa province. Je ne vais pas ici mettre un jugement de valeur sur ce qu'il fait concrètement, parce qu'ils sont ici à Kinshasa, ce qui se passe au Bakongo, nous les entendons de loin, mais j'analyse cette position-là, cette motion de défiance-là, dans ce sens-là, un gouverneur qui n'est pas bien aimé de tous les élus, mais qui a été voté par eux, qui ne se reconnaît pas directement d'une tendance politique que de l'autre, et qui gère peut-être sans rendre compte à des élus qui sont déjà surannés. Il faut comprendre aussi que ces députés ont fait plus de temps que possible, ils ont traîné là-bas, et leur efficacité aujourd'hui est mise à mal et mise en question.
Chambouy Batoubenga, vous intervenez depuis Matadi dans la province du Congo central. Vous êtes mieux placé pour nous faire comprendre ce qui s'est réellement passé à l'Assemblée provinciale du Congo central. Qu'est-ce qui s'est passé?
Merci Kelly. Je salue mes deux confrères qui sont sur le plateau avec vous. Et surtout de la prudence qu'ils ont utilisée dans leur langage, étant donné qu'ils ne maîtrisent pas la situation qui se passe en province. Vous avez compris que la motion était une motion initiée par un monsieur du PPRD. Mais la même personne qui a initié cette émission n'a pas su comment défendre cette motion au sein de l'Assemblée provinciale. Jusqu'au point même de ne pas connaître le nombre de députés qui en a. Tantôt il parle de 28, tantôt de 27. Seulement, si vous comprenez bien la question, c'est parce que la motion était rédigée à Kinshasa, Kelly. Rédigée par les politiciens qui sont à Kinshasa, les politiciens Nekong, effectivement, qui sont à Kinshasa, et les autres n'ont fait que porter ça au niveau de la province. Et je peux aussi vous signaler que la quasi-totalité des 8, les gens qui ont signé cette motion, c'était les députés suppléants. Donc ce ne sont pas des personnes qui étaient effectivement votées par le peuple directement, mais c'était les suppléants, la quasi-totalité. Alors, ils se retrouvent là, et si vous analysez très bien la question qui s'est posée, il s'agirait, comme a dit Rombo, le problème de règlement des comptes où manque quelque part des notions. Vous connaissez, nous sommes dans ce pays, nous connaissons ce qui se passe, la notion de l'opération retour. On a vu les gens qui étaient auparavant des ennemis se réunir tous aujourd'hui pour combattre Jack Mbadou. Or, combattre Jack Mbadou pour la population, j'ai suivi les reportages sur votre chaîne, pour la population, tout juste après, il y a eu les joies. C'est-à-dire, la population se retrouve dans ce que Jacques Mbadou est en train de faire.
Merci.
Et pour certains politiciens, ça pose problème seulement parce qu'ils craignent de voir Jacques Mbadou réussir. Il y a
un
chef de gouvernement moderne, les investissements. La problème.
Merci, Samboui Batoubenga. On vous a compris. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Notre actualité, Rombo, c'est les prix de plusieurs produits des premières nécessités qui ont augmenté ces dernières semaines à Kinshasa. Le prix du sac de riz, par exemple, de 25 kilos est passé de 24 000 à 28 000 francs congolais. À quoi peut-on attribuer cette hausse des prix? Est-ce que c'est par rapport à la dépréciation du franc congolais ou encore c'est parce qu'on approche, nous sommes à l'approche des fêtes?
Mais Kelly, toi et moi et Thierry, disons l'ensemble du peuple congolais ne peut pas être surpris. C'est cyclique, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous l'avons toujours vécu depuis longtemps. Donc c'est un problème d'ordre structurel. Et tant qu'on ne s'attaque pas aux causes profondes de ces phénomènes, il en sera ainsi jusqu'à 2030, jusqu'à 2050, et ainsi de suite. Il en sera ainsi. Le problème, lorsque nous, Congolais, nous consommons, tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. C'est la fin des choix que nous puissions subir toutes ces conséquences. S'il n'est pas normal qu'un pays aussi béni, aussi comblé de toutes sortes de richesses, surtout agricoles, de potentialités agricoles, nous puissions encore dépendre de l'extérieur. Les riz, les chinchards, maintenant, je ne sais même pas les makoso, comment on appelle ça encore en français, là. Mais est-ce que les Congolais peuvent encore continuer à se nourrir de tels aliments? Je pense le fond du problème, c'est celui-là. Tant que nous n'avons pas des dirigeants qui ont une vision claire et précise de la manière dont le pays doit être dirigé, nous allons toujours continuer à vivre de tels événements. Donc ce n'est pas nouveau, ce sera ainsi. Donc tant que nous n'allons pas nous assumer, nous n'allons pas produire sur place ce que nous consommons, nous allons toujours subir ce genre de événements.
Alors Thierry, à quoi vous attribuez cette hausse des prix?
Cette hausse des prix est la conséquence de la mégestion de l'ancien gouvernement Matata. Il ne faut pas aller chercher ça ailleurs. Les résultats en fin d'exercice de ce gouvernement ont trahi ce qu'on appelle une économie soutenue par des causes extérieures. Ce n'est pas normal. Vous pouvez baser votre économie sur les prix des cours de matière extérieure. Non, non. On ne peut pas être toujours dépendant de tout ce qui vient de l'extérieur, comme l'a bien dit mon confrère Rombo. Mais cependant, je constate aussi que nous sommes arrivés à une période de grande turbulence politique qui peut aussi engendrer justement des conséquences sur le plan économique. Et que nous sommes, je constate aussi que nous sommes en train de passer pratiquement 2 mois sans gouvernement. Hein, donc nous avons un pays qui n'est pas gouverné, il faut le dire, et sans la présence d'un exécutif, parce que dans notre système politique, sans le gouvernement, il est difficile de tout gérer, sans la présence de cet exécutif, il est difficile aujourd'hui de pouvoir avoir une maîtrise totale sur le cours des prix. Il vous souviendra aussi que le gouvernement actuel, le gouvernement plutôt Matata, et est parti sur un résultat assez négatif dans la consommation du budget 2016. Et le budget 2016, qui a été revu vers le premier trimestre de l'année, avait été réduit parce qu'il fallait réduire les recettes, parce que les recettes sont tombées à cause du prix des matières premières, la baisse des prix des matières premières, et les consommations même des institutions ont être réduit de 30%. Aujourd'hui, nous avons un taux de change qui a grimpé, pratiquement de 25% de plus. Le dollar qui se changeait en début de l'année à à peu près 1000 francs, aujourd'hui se change à 1300 francs, 1025 francs ou ailleurs. Et donc, 1250 francs, je vais dire. Et donc, tous ces éléments-là font aujourd'hui que bon, les hommes d'affaires qui vendent ces produits importés ne peuvent que s'ajuster le prix en francs congolais par rapport aux produits qu'ils achètent en dollars. Et le sac de riz que vous avez cité ici, qui vient d'Asie, paye la douane, est acheté en dollars là-bas, et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, il soit augmenté. Il faut donc le gouvernement qui va venir, nous le souhaitons très peu.
Le gouvernement de la ville de Kinshasa et la FEC ont décidé de baisser de 18% les prix du riz, par exemple, du poulet, de la viande.
Comment ils vont le faire?
Mais Kelly, permettez-moi.
Comment ils vont le faire?
C'est pas ça, la solution, c'est pas celle-là. C'est pas ça. Parce que c'est comme si vous avez aujourd'hui un enfant qui fait de la forte fièvre, vous prenez de l'eau froide pour je ne sais pas, pour vous consoler, vous lui aspergez l'eau froide et il a la fraîcheur sur la peau et vous croyez avoir résolu le problème. C'est pas ça le problème. C'est pas ça la solution.
On va aller à Matadi, Chambouyi, Batoubengasque. Le même constat est fait aussi dans la province du Congo central.
Au Congo central, il y a quelque chose sur le marché. Tout a bougé, en commençant même par les produits de Bralima, Bracongo, tous ces produits-là ont augmenté les prix, les riz, on n'en parle pas, l'essentiel. Après, ça ne va pas. Hein? Vous savez, même les produits, vous savez qu'ici, il y a l'influence de beaucoup de produits qui viennent de l'Angola, avec le marché Loufo. Même ces produits prennent déjà de la santé. Ça ne va pas. Et pour répondre à la question que vous avez posée à mes collègues qui sont sur place là-bas, quelle est la solution? Vous savez, avec ces gens, les gouvernements peuvent changer chaque jour, il n'y aura rien. La solution qu'elle lit, c'est le changement des régimes. Il faut qu'on change les régimes. Il faudrait qu'il y ait de nouveaux sangs, de nouvelles personnes qui peuvent faire du bien. Ici, nous avons beaucoup attendu, vous connaissez que il y a eu des gouvernements en gouvernement qui se sont succédés et ils ne donnent jamais des solutions appropriées par rapport aux problèmes du peuple.
Merci, Chambouyi Batoubenga. Premier terme de ce soir, la conférence épiscopale nationale du Congo annoncée hier jeudi 8 décembre à Kinshasa, des nouvelles négociations entre Congolais pour permettre à la RDC de sortir de l'impasse politique à moins de 15 jours de la fin du mandat du président Joseph Kabila. En présence des délégués signataires de l'accord issu de la Cité des Nations africaines et des non-signataires du premier ministre sortant et de son successeur, le président de la CENCO, Mgr Marcel Outembi, a inauguré les travaux en les plaçant sous les signes de l'espérance et de la réconciliation nationale. Cette première journée a été consacrée essentiellement à la validation des mandats et harmonisation des listes des participants qui sont au nombre de 30. Jeff Ngoy pour les reportages.
Ces assises porteront sur l'examen des 6 points de divergence, notamment la constitution, la séquence des élections, le calendrier électoral contenu dans le communiqué de la mission de bons offices de la CENCO, afin d'obtenir des solutions quant à ce par un large consensus. L'appel de Mgr Marcel Outembi aux participants.
Nous vous exhortons à la culture de la concorde et de la paix, car c'est tout ce que notre peuple attend de vous.
Un des signataires de l'accord du 18 octobre, le ministre sortant Lambert Mende de la majorité présidentielle et saisit le message du président de la CENCO.
Nous venons ici à la recherche d'un élargissement du consensus et donc l'appel des évêques rentre en droite ligne de ce que nous recherchons.
Un des opposants signataires de l'accord, José Makila, attend de ses assises le consensus autour de ce qui divise les parties prenantes.
Qu'est-ce qui nous départage exactement pour qu'on se mette ensemble pour le bien du Congolais.
Pour l'opposition non signataire de l'accord, le délégué de l'UDPS, Valentin Moubaké, attend de ses assises un compromis sur la gestion du pays après le 19 décembre prochain.
Mais ce dialogue doit aboutir au respect de la Constitution. Vous vous imaginez le 19 décembre, il n'y a plus de chef de l'État. C'est de cela qu'il s'agit.
Ce forum réunit 15 délégués non signataires de l'accord du 18 octobre, dont 13 du Rassemblement et 2 du Front pour le respect de la Constitution et 15 autres signataires du dit accord. La durée prévue est de 3 jours.
Merci Jeff pour ce reportage. Thierry Bongo, journaliste Africa TV, une télévision émettant à Kinshasa. Thierry, comment vous analysez ces assises qui ont commencé sous la médiation de la CENCO?
Premièrement, il faut comprendre que les parties prenantes ont des objectifs différents. Alors, le plus gros du travail qui sera demandé, ce sera celui de la synchro, de pouvoir concilier les points de vue, concilier les objectifs, parce que, en définitive, il faut que le peuple puisse en sortir victorieux. Je constate que la majorité présidentielle et une partie des signataires à l'accord considèrent plutôt ces assises comme étant le prolongement de l'article 24 de l'accord qui demande à ce qu'on puisse avoir plus d'inclusivité. Donc la venue de l'UDPS, du Rassemblement et de tous ces partis, de toutes ces composantes de la société civile qui n'étaient pas signataires à l'OUA, fait que ce forum n'est qu'une prolongation pour eux de ce qui s'est passé à la cité de l'Union africaine qui s'est clôturée le 18 octobre en accord. Je constate aussi que de l'autre côté, nous avons les caciques du Rassemblement, le Rassemblement qui a aligné d'ailleurs les plus grands extrémistes de leur camp. Vous avez Valentin Moubaké, vous avez le secrétaire général Kabuna Kabun, ce sont vraiment des extrémistes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Et ce sont là les personnes qui ont juré bec et oncle sur un 19 octobre qui va être une transition de Kabila, 19 décembre plutôt, une transition de Kabila à une autre personne. Et dès lors que déjà les objectifs sont très distincts et totalement, diamétralement opposés, je suis de ceux qui pensent que cette réunion qui se fait à Senko a très peu de chances, voire 30% de chances de réussir. Mais il faut saisir cette chance-là sur base de foi. C'est cette chance, c'est-à-dire avoir la foi. Ce n'est peut-être pas un critère objectif, mais quand même, on peut espérer que les personnes qui vont se remettre ensemble pendant ces jours vont se dépasser et trouver une solution rapidement. Je vois aussi, dans mon analyse, je constate aussi que 3 jours, c'est vraiment
est-ce
osé.
Est-ce que c'est suffisant?
C'est vraiment osé. Nous sommes
arrivés à concilier les vues des uns des autres.
Totalement insuffisant, parce que déjà aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour, et ça va être encore consacré sur la mobilisation des listes. Nous ne sommes pas encore d'accord sur les participants en 2 jours. Alors, merci. Sur les points concrets de divergence, je ne les vois pas épuisés en 24 heures.
Rombo Tsaba, journaliste au journal L'Observateur, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Rombo, vous pensez que ces travaux vont aboutir à un compromis entre le Rassemblement et le pouvoir?
Permettez que je sorte un peu des sentiers battus. Dans un premier temps, pour répondre à ta question, je voudrais me faire optimiste. Je voudrais souhaiter que, étant donné les cadres d'abord dans lesquels se déroule ce pourparler, le centre de sais, où nous imaginons que l'Esprit Saint guide les gens qui sont là-bas, nous nous permettons d'être optimistes. Mais je voudrais rapidement faire une observation à mon frère Samouiki Amatadi, que le problème et la solution, ce n'est pas le changement de régime, mon frère. On peut changer le régime. Nous ici, nous avions jubilé dans la ville de Kinshasa, ici, un certain 17 mai 1997. Mais aujourd'hui, si on fait le bilan, on ne voit pas si on peut être vraiment objectivement parlant, dire que nous avons progressé. Le problème, c'est le problème de la vision. Il faut qu'il y ait des sommets qui ont une autre vision que celle qui se passe aujourd'hui là-bas. Il faut qu'on pose le problème aux politiciens lorsqu'ils veulent accéder au pouvoir. Pour eux, le pouvoir veut dire quoi? C'est la jouissance? C'est l'accaparement des richesses nationales à leur profit, c'est l'enrichissement ou c'est vraiment pour transformer la population, redistribuer les produits nationaux
Est-ce qu'on peut revenir aux assises qui se tiennent actuellement
Je voulais insister par là pour dire que
J'aimerais bien, tout le monde souhaite qu'on arrive à un compromis, à un consensus. Mais le problème est qu'est-ce qu'on va en faire, puisque ce n'est pas la première fois. Qui s'était imaginé, c'est l'instant qu'après San Suu, les Congolais pouvaient encore se retrouver en train de dialoguer sur des principes constitutionnels. Aujourd'hui, quand on parle de respect de la Constitution, mais quel est le respect de la Constitution, puisque la Constitution est déjà violée. Aujourd'hui, on serait déjà en train de préparer la prestation de serment du nouveau président élu. Donc, la Constitution est violée. Lorsqu'on dit aujourd'hui le respect de la Constitution, je suis en train de m'imaginer qu'on est en train de parler de la fiction, on est en train de jouer du théâtre. Donc, moi, ma principale préoccupation, c'est de savoir si aujourd'hui, on arrive à un compromis. Mais qu'est-ce que ces gens-là vont faire de ces compromis-là? Nous n'allons pas toujours tourner en rond. C'est ça, tout le monde qui se rue là-bas, Thierry parle encore de la mondialisation. Ces gens-là sont là, ils croient qu'après, lorsqu'on va partager les pouvoirs, lorsqu'on va former le gouvernement, priorité sera donnée à ceux qui sont là aujourd'hui, au centre d'intervention. C'est ça le problème. Ce n'est pas pour dire que voilà, moi, quand je vais devenir ministre du développement rural, de l'agriculture, voici ce que je voudrais faire.
Chambouri Batubenga, journaliste et directeur de programme à la radio-télévision Atlantique, une télévision, et mettant à Matadi dans la province du Congo central, quelle chance vous accordez ou vous donnez à ces assises qui se tiennent sous la médiation de la CENCO, lorsqu'on sait que les parties prenantes, chacune des parties, vient avec son objectif.
Oui, nous avons de bonnes occasions ici, Kelly, de féliciter le chef de l'État. Je félicite le chef de l'État parce que cette fois-ci, il a confondu les classiques de la majorité présidentielle. Il s'est comporté en chef de l'État, il est allé au-dessus de toutes les considérations que les siens, que les gens de la majorité avaient par rapport au dialogue. Vous avez suivi l'arrogance avec laquelle nos frères de la majorité présidentielle utilisaient pour dire que c'est quoi échoué, ceci, cela, rien ne peut se faire, il n'y aura pas un deuxième dialogue. Mais le chef de l'État a compris que le chef, il faudrait se mettre au-dessus de tout, et aujourd'hui, les dialogues viennent de commencer. Tenez, nous l'avions dit, c'était ici sur votre radio au Capi, on avait dit que les congressistes de la cité de l'Union africaine, donc nous disons la majorité présidentielle et ses alliés, en Union africaine, ils ont eu un document de travail qu'ils ont baptisé Accord du 18 octobre. Comme ils ont ces documents et que les autres, les gens du Rassemblement, donc l'opposition a le cahier des charges, maintenant qu'ils sont ensemble et que les dialogues, parce que les dialogues viennent de commencer, Kelly, je l'avais dit cette radio que les dialogues, c'est entre l'opposition, la majorité et l'opposition. Quand je parlais de la majorité, je disais majorité incarnée par Joseph Kabila, l'opposition Étienne Tshisekedi. Quand ces gens vont se rencontrer, il y aura la solution. Et aujourd'hui, nous sommes en face de cette scène que j'avais déjà prédit. C'est pour dire qu'il y a des chances. J'ai suivi notre confrère qui donne 30% seulement des chances. Et moi, je m'inscris dans l'optimisme. L'optimisme dans le sens que ça soit les camps de la majorité. Ils savent qu'au 19, s'il y a des troubles, ils ne sauront pas contrôler la situation. Même les gens de la majorité et de l'opposition, des rassemblements, ils savent qu'au 19, s'il y a des situations, ils ne sauront plus contrôler les gens. Mais qui a intérêt de voir ce pays en feu à sang? Personne, je pense. Donc ils sont là. En tout cas, nous prions le Seigneur Dieu afin que puisse le Saint-Esprit, comme l'a mis à dire là-bas, puissent les habiter et qu'ils trouvent une solution. Il est vrai que la Constitution est déjà bafouée, vous voyez tout ce qui est déjà arrivé, mais maintenant on doit trouver une solution politique. Comment faire pour passer cette étape des 19 et très bien, nous sommes des frères, il ne faut pas s'entretuer parce qu'il y a ceci, cela, ou si il y a les dialogues, il faudrait vraiment que tous les Congolais puissent prier.
Merci, merci Thierry Bongo. Vous pensez que si on n'arrive pas à trouver un compromis lors de ces assises, après le 19, le pays risquerait de sombrer dans le chaos?
En fait, moi j'ai plutôt l'impression que les gens brandissent la date du 19 décembre comme étant un bâton, un rubicon à traverser totalement pour le pays. Mais s'il n'arrive rien au 19 décembre, que deviendra cette opposition-là qui ne brandit que cette date comme date fatidique? S'il n'arrive rien au 19 décembre, qu'arrivera-t-il au chef de l'État, Joseph Kabila? Qu'arrivera-t-il aux revendications du rassemblement et autres? Moi, je crois que plutôt...
On sait quand même qu'après le 19, le président ne sera plus légitime.
Oui, c'est connu. Nous ne dirons pas le contraire, il ne sera plus légitime. Et c'est bien pour cette quête de légitimité-là qu'il accepte tous ces dialogues en succession. Mais moi, je crois plutôt que le problème, il est plus subjectif qu'objectif. Parce que ceux qui sont partis se réunir à la Cité de l'Union africaine ont fait un travail remarquable. Ils ont établi des points de convergence, ils ont établi un calendrier par rapport justement aux événements qui touchent les Congolais. On sait déjà avec l'accord du 18 octobre avoir un baromètre par rapport à ce qui dérange les Congolais. Qu'est-ce qui dérange les Congolais aujourd'hui? C'est de voir l'alternance effective dans ce pays. C'est de voir un président quitter pour un autre. Actuellement, nous ne pouvons le faire au 19 octobre. Il fallait penser à le faire au 19 décembre, excusez-moi. Il fallait penser le faire au-delà. Comment le faire? Et ils se sont réunis autant de jours pour la question. Aujourd'hui, on revient dessus. Parce que parmi les points de divergence, on dit encore le calendrier. Pourquoi n'avons-nous pas discuté en amont? Parce qu'on n'aimait pas Kodjo? Parce qu'on n'aimait pas tel? Non, je crois plutôt que les politiciens congolais ont cette fâcheuse manie de mettre leurs sentiments...
Vous pensez qu'on a perdu le temps?
On a perdu beaucoup de temps pour aujourd'hui se réunir sans préalable. Parce qu'il faut reconnaître ceci. Aujourd'hui, il n'y a plus de préalable pour se réunir à la CENCO. Il y en avait pour aller à l'Union africaine. Il fallait. Et maintenant, il n'y en a plus. On a perdu considérablement du temps parce qu'on ne voulait pas, parce qu'on n'aimait pas. C'était totalement subjectif, il n'y avait pas d'objectivité dans le choix qui a été fait.
Rombo Otaba, vous pensez comme Thierry qu'on a perdu inutilement le temps?
Effectivement, on a perdu inutilement le temps. C'est pourquoi moi, je reviens toujours sur ce que nos politiciens, ceux qui font la politique, pensent de ces pays. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Justement, si une partie... si certains acteurs politiques n'avaient pas exigé, par exemple, à l'époque, la présence d'un facilitateur étranger. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'ils sont au centre des têtes, je sais. Est-ce qu'il y a un facilitateur étranger là-bas? Ils se sont retrouvés entre eux, les Congolais, parce qu'ils ont compris. Alors, c'est pourquoi je voudrais tout simplement revenir là-dessus. Il ne faut pas qu'on continue à faire de la politique fiction, avoir des réactions épidermiques. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, il faut faire appel à son intelligence et voir comment résoudre les problèmes. Effectivement, là aujourd'hui, il y a un problème. Ils sentent, et les extrémistes de gauche et les extrémistes de droite savent que le 19 s'approche et que la situation risque d'être incontrôlable. Et d'ailleurs, nous qui marchons à pied, qui prenons les taxibus, Les gens sont un peu ne tiennent même plus compte de ce qui se passe maintenant à la CENCO. Pour eux, ils sont déjà mis dans la tête que le 19, il faut que Kinshasa bouge. Il faut que Kinshasa bouge. Donc c'est pour dire que il y a des gens qui ne dépendent ni des politiciens de gauche ni des politiciens de droite. C'est là qu'ils disent qu'ils n'ont plus rien à gagner dans cette ville, dans ce monde ici. Donc pour eux, le 19, ils vont se lancer dans la bataille. Pourvu que. Donc, les gens ont compris.
Merci.
Et nous supposons que là où ils sont, ils comprennent la mesure de la situation et qu'ils vont se ressaisir et aller de l'avant.
Jean-Bouy Batoubenga, les politiciens ou toutes ces personnes qui se retrouvent en ce moment au centre interdiocésain ont intérêt à pouvoir trouver une solution ou un compromis qui puisse satisfaire la population ainsi que toutes les parties présentes à ces assises.
Oui, Kelly, je voudrais d'abord préciser que on n'a pas perdu le temps comme les confrères sont en train de le dire. Le temps qui est passé était nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, tous tels qui se retrouvent là, ils ont dans un autre état d'esprit. Cet état d'esprit n'était pas auparavant s'ils étaient partis tous dans les congrès de la majorité qui s'est tenu à l'Union africaine. Vous comprenez? C'est-à-dire que aujourd'hui, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité présidentielle élargie telle qu'elle se présente là aujourd'hui, ils sont notre état d'esprit et ils sont obligés, moi je suis optimiste, ils sont obligés de trouver une solution. Parce que comme je l'ai dit, personne ne maîtrise la situation. Vous savez, Kelly, nous sommes un grand pays aux dimensions continentales. Les jeunes blancs qui ont beaucoup de moyens, ils ont commencé la guerre en Irak. Ils l'ont terminé jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe en Libye, hein? Mais ces grands pays, s'il y a des troupes, qui va contrôler ça? Ni l'opposition, ni la majorité. Ils sont conscients de cela. Et je suis de ceux qui croient que, à l'issue de ces dialogues qu'on attendait, parce qu'il n'y avait pas eu encore dialogue, comme le dialogue vient de se tenir aujourd'hui, et ce sont toujours les Congolais entre nous, c'est entre nous que nous sommes là, la solution va sortir.
Deuxième et dernier thème de ce soir, situation sécuritaire à Tshikapa. Plus de 30 personnes, dont des militaires, des civils, ont trouvé la mort dans des affrontements entre les forces de l'ordre et les membres d'une milice non identifiée. Le bilan a été livré lundi dernier aux médias locaux par le vice-gouverneur du Kasaï. Hubert Mbingo parle aussi des blessés, des miliciens arrêtés. Sur place, la paralysie des activités cède la place à une reprise timide de la vie. André Kambala pour les détails.
C'est par un document écrit remis aux médias de Tshikapa que le vice-gouverneur de la province a annoncé ce bilan. D'après Hubert Mbingonvula, 31 personnes ont trouvé la mort dans les affrontements du week-end. Parmi elles, 13 militaires et 18 miliciens. 14 autres militaires sont blessés tandis que 16 miliciens sont capturés. Plusieurs sources contactées à Tshikapa ont indiqué que dans l'avant-midi de ce lundi, toutes les activités ont été paralysées. Elles ont aussi constaté qu'aucune école n'avait ouvert ses portes dans toutes les 5 communes et ont enfin noté que boutiques, magasins et marchés avaient aussi été fermés. La même chose pour les banques et les messageries financières. Cet après-midi, quelques motos de transport en commun sont perceptibles sur la voie publique. Sur le plan sécuritaire, la présence militaire devant le pont Kasaï et Tshikapa est revue à la baisse, ce qui a rendu possible la circulation des populations des communes de Mbumba et Mabondo vers Kanzala et vice-versa. La même chose pour les populations de Djibumba 1 et 2 qui se rendent au centre-ville. De Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Merci André Kambala. Nous apprenons que hier, jeudi, il y a eu encore des échafaudés entre les forces de l'ordre et les hommes, cette fois-ci, du chef Kamwena Nsapu à Mvunkonde, une mission catholique située à environ 70 km au sud-est de Kananga. Rombo Tsaba, vous suivez ce qui se passe dans le Kasaï. Avant Tshikapa, c'était Kananga Mbujimayi, maintenant Tshikapa, où les forces de l'ordre s'affrontent avec des milices locales. Comment on peut analyser cette situation?
Non, mais c'est tout simplement que nous sommes dans un non-état, tout simplement, Kéline Kouté. Non, ne soyons pas surpris que dans quelques jours, nous puissions apprendre qu'à Mwanda, là-bas, vers Tchela, que donc, nous sommes aujourd'hui dans un non-état où l'autorité n'existe pratiquement pas. Donc, c'est ce que nous vivons à Rutshuru, à Beni, à Otchalaba, tout ça, c'est la manifestation concrète de l'absence de l'autorité de l'État dans ces pays. Là-bas, c'est... Regardez ici sur le boulevard du 30 juin, vous voyez des brigands là, hein, qui s'improvisent dans la, sur l'avenue du 30 juin, ils barricadent les routes. Donc, on vit aussi des autorités. Est-ce que nous sommes encore dans un pays où nous sommes encore dans une jungle? Je pense que tout cela, malheureusement, au centre des saisons, on n'aura pas le temps, mais ceux qui se précipitent aujourd'hui, qui ont afflué vers Sami Badibanga pour entrer dans son gouvernement, il reste encore à savoir si Sami Badibanga a encore la chance de survivre. Ceux qui ont encore cette prétention-là doivent savoir que lorsqu'ils seront nommés, il ne faut pas qu'ils fêtent parce qu'ils doivent se sentir comme des sacrifiés.
Il y a beaucoup
de défis à relever au point où je me demande si les gens qui veulent entrer au gouvernement prennent la mesure de la tâche qui les attend. Alors, c'est pour dire que tout cela, tout ce qui se passe à Tshikapa, et c'est curieux que ça se passe à quelques jours du 19 décembre, parce que si vous voyez, le chef là, lui il était vers Tchimboulou. Tchimboulou c'est très très loin de Tshikapa. Très loin de Tshikapa.
À Tshikapa, alors, on parle d'une milice locale qui n'a rien à voir avec Kamwena Nsapu.
Mais
selon certaines...
Mais justement, vous voyez, donc, là vous parlez maintenant au conditionnel. Si nous avions un État, si nous avions un gouvernement responsable, on ne parlerait pas au conditionnel.
on aurait dit voici ce qui se passe. Non, moi ce qui m'a intrigué c'est le fait que Chimburu, où se trouve le groupement des chefs qui a été tué là, est très loin de Tshikapa. Et qu'on dise que c'est une milice liée à ces chefs de Koutibé, moi je trouve que c'est vraiment de n'importe quoi.
Thierry Bongo, est-ce que cette situation s'expliquerait par l'absence de l'autorité de l'État?
Totalement, l'absence de l'autorité de l'État, mais surtout par la misère et ces sentiments d'injustice sociale qui caractérisent le peuple du Grand Kassai. En tout cas, si vous allez dans cette partie du pays, vous sentirez que vous lirez sous le visage des gens cet abandon qu'ils sont en train de subir de l'État. Je peux aussi ajouter dans le sens que quand vous parlez de milice, une milice, à mon sens, dans la définition que j'ai dans ma tête, ce sont des éléments armés, des éléments de sécurité d'une personnalité ou d'un groupe de personnes. Et je me demande si ces milices sécurisent qui ? Les milices interviennent souvent dans des parties où l'État ne sait pas prendre la sécurité de ces populations. Nous avons vu ça au Kivu avec les Maïmaï. Les Maïmaï avaient pour mission de sécuriser leur communauté et c'est ainsi qu'ils agissaient en bataille contre d'autres communautés qui venaient menacer leur sécurité.
Alors il y a certaines observations qui parlent de conflits de pouvoir coutumier. Certaines sources disent que le ministère de l'Intérieur procéderait au changement des chefs coutumiers et ça n'enchante pas les communautés sur place.
C'est justement ça. Je crois que même le pouvoir coutumier, ce n'est pas un pouvoir qui doit être géré au niveau de Kinshasa. C'est un pouvoir qui doit être géré à la base. C'est l'un des pouvoirs plutôt qui a tiré son essence à la base. Le pouvoir coutumier ne peut pas être géré à Kinshasa. Et c'est ce qui fait que je rejoins aussi la position de mon confrère Romo. Le gouvernement qui doit venir rapidement aura un grand travail à faire, une grosse tâche, parce que au-delà de tous ces soubresauts sécuritaires qui rongent le pays, il y a encore ces soubresauts plutôt tirent leur source aussi dans les problèmes sociaux, le marasme social que vit notre pays. Et donc ce gouvernement qui doit venir rapidement aura fort à faire parce qu'il devra nécessairement trouver des solutions rapides à ces problèmes. Les miliciens en aura toujours tant que les communautés ne se sentiront pas en sécurité chez elles, et les miliciens veulent être leur chef, mais dès lors que le problème reste et demeure, ils vont toujours en avoir d'autres. Et donc moi je crois que le gouvernement Badibanga a le devoir de sortir rapidement parce que l'État ne doit survivre au-delà des conciliabules des politiciens.
Merci Thierry, on va considérer aussi c'est là comme votre conclusion. La réalisation me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps. Chambouyi Batoubenga, vous allez être concis. Quelle est votre analyse à vous, votre lecture par rapport à tout ce qui se passe dans l'espace Grand Kassai avec ces miliciens qui naissent à gauche à droite, ces milices?
Je vais seulement vous dire que c'est l'inefficacité du gouvernement, plus précisément l'inefficacité du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui ne sait pas gérer la situation, la succession administrative du pouvoir coutumier dans les Kassai. Le ministère de l'Intérieur, vous savez ce que ça venait, le ministère venait de faire comme acte ici à Matadi. Hein? Vous avez suivi que le canal TV et télévision a été saccagé, pillé, les journalistes tabassés par les gens ayant l'ordre d'émission signé par le ministère de l'Intérieur, par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Et nous faisons foi, déclaration faite par le directeur Patrick Palata de TV. Vous comprenez, le ministère de l'Intérieur qui doit mettre de la paix, c'est les gens qui viennent du ministère avec l'ordre d'élection qui viennent mettre les désordres, qui tabassent les journalistes, qui saccagent les nations.
Quelle serait la solution aujourd'hui, Chambouyi, pour mettre fin à toutes ces milices qui naissent dans le Kassai?
La solution, moi je vous l'avais dit, c'est le changement de régime. Le régime a montré ses limites. On passe aux élections, qu'on change le régime, c'est tout.
Merci, Chambouyi Batoubenga. Un mot, Rombo, pour les solutions, juste un mot.
Moi, je pense que les acteurs politiques sont des inconscients. Il faut que nous, les hommes des médias, nous puissions pousser à ce qu'il y ait un débat sincère dans ce pays sur ce qu'on entend par pouvoir. Lorsqu'on veut avoir le pouvoir, cela veut dire quoi ? On fait quoi du pouvoir ?
Merci.
C'est ça. Nous devons pousser à ce qui est ce débat général.
Merci, Rombo Tabas. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Alain Hung, sur la supervision de Martin Kebouchangoué. Merci à Jean-Noël Mokondo, qui était à la prise de son. Micro Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.